Je voudrais vous faire une petite connexion entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Hanouka. A priori, on n'est pas. Alors, petite introduction. La faute obstrue la conscience de la présence d'Hachem. Donc,
C'est l'exercice de la faute ou le principe de la faute?
l'exercice, c'est le principe. Parce que on peut l'illustrer d'une façon assez remarquable par deux principes, trois principes. Premier principe, la présence de Dieu chez l'homme, c'est sa vitalité. Donc, l'homme, c'est Adam. Le Aleph, c'est la présence de Dieu. Comme je vois, nous dit le Rav Tzedek HaKohen, il dit, quand je veux savoir le sens d'une lettre, je vois la première fois qu'elle apparaît dans la Torah. Donc l'Aleph, c'est Elohim, donc c'est Dieu. Donc si j'enlève la présence de Dieu,
Le sang.
il reste le sang, sachant faire d'âme. Faire couler le sang, c'est la mort. Dans le même esprit, la faute, c'est Chet. Chet, le Aleph, on l'entend plus.
C'est ça.
Donc c'est la, la
Il y a beaucoup de mots comme ça.
Alors, la Gola, l'exil, c'est la Gola, c'est la Géoula, où on a enlevé le Aleph. C'est pour ça, quand je vais prendre le Aleph, c'est-à-dire la présence d'Hachem à travers l'étude, que je vais rentrer dans la Gola, va me donner la Géoula. Et Géoula va me permettre, en fait, d'être Gal. C'est quoi Géoula? C'est Gal, Aleph, Vav et Aleph de Kissé, Al-Kiyad Al-Kessia, le Vav élevé, Kiyad Yutke. C'est les parties qui manquent depuis dans la guerre contre Amalek. Vous vous rappelez? Kiyad Al-Kessia, Milcham Al-Hashem Amalek. Donc il manque le Aleph, le Vav élevé. Alors c'est ça, Gal, Aleph, Vavke, ça donne Géoula. À partir du moment
que tu as réarrangé là, c'est ça?
Que oui, l'ordre est arrangé. Maintenant, ceux qui vont travailler sur ce principe d'arriver à la Géoula, c'est donc de réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait la faute du Etz Adda'at. Alors ça, je reprends les choses. Etz Hadda'at Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz, ça fait 160. Hadda'at, 479. Ça fait 639. 639. 639, c'est la valeur numérique de Avraham, Yitzhak,
ah, au collège près.
Yaakov avec un collège. Et c'est normal puisque Yitzhak qui répare le degré de Avodazara de Fadada Marchon, Yitzhak de Shurudamim et Yaakov de Gilou Yirayot. On peut les arranger d'une autre façon, mais on retrouve cette réparation. Et ça, comment on peut arriver à cela? Grâce au travail qu'on fait à Hanouka. Hanouka, donc on est à 638 pour Avraham Yitzhak Yaakov. Et en fait, quand j'ai écrit Hanouka, Chet, Nun, Vav, Kaf, et He, Amalé. Oui, Hanouka Amalé. Donc 408 plus 106 plus 13 plus 100 plus 10. 400, 637. Je rajoute le Kollel, j'arrive au Avot. Je rajoute le Kollel, j'ai Etzada Tovara. Maintenant, le Etzadaat. Etzadaat, on a vu, ça faisait 639. Je rajoute le Kollel à 639, ça fait 640. Ouais. 640, c'est 10 fois Din. Din, 54. 64. Et donc 10 fois din, c'est comment on va atténuer le din quand on va arriver au temps messianique. Qui va être à l'origine de ces temps messianiques? Donc c'est l'ancêtre du Mashiach.
David.
Et avant David?
Adam.
Adam, c'est celui qui est avec qui est. Ishaï, avant Ishaï.
Yehuda,
il ne peut pas être tout seul.
Non, attends.
Tamar.
Ah, Yehuda, Tamar, d'accord.
Et Tamar
640.
C'est pas phénoménal. C'est Tamar, et ça, Tamar. Tamar qui s'arrête, la, qui s'arrête la mort, la, qui s'abat à la mort. Qui s'arrête à la...
C'est un palmier.
Non, le palmier. Ouais, c'est Tamar, c'est comme la palmier d'Athie.
Mais d'ailleurs, tu peux le lier à Etz Hadaat.
Etz Hadaat. Elle était facile. Elle était bon. J'en prends bonne date. Il n'y a pas un pépin là-dessus. Maintenant.
D'ailleurs, quand il était avec elle, il dit ça fait du bien. Il dit non, ça fait pas de mal. Non. Du bien et du mal. Bon.
Alors, par contre, quand on va s'intéresser dans les textes, on va voir que Etz Hadaat Tovara, c'est pas la date, mais c'est l'étrog. Parce que Ta'am Pirio qui est Ta'am Etzo. Le goût de son écorce, c'est comme le goût de son fruit.
C'est ça, comme tous les arbres du Gan Eden.
Comme les arbres, comme ils auraient dû être, mais finalement ils n'ont pas été.
Oui, ils sont rebellés.
Vous savez, la Etz Oseperi et Etz Peri. Hachem a dit que la terre sort des arbres fruits et elle est sortie des arbres fruitiers. Donc, de Etz Peri, c'est devenu Etz Oseperi. Le seul qui était Ta'amo, qui est Ta'am Etzo, c'est l'étrog.
Maintenant, tu dis l'étrog, mais quand on mange le tronc de l'étrog, il a le goût de
l'étrog. Il a le goût de l'étrog, oui, c'est ça.
Le tronc de l'étrog.
Oui, ben oui, c'est ça.
Quelqu'un
a goûté? Il y a un tronc de l'étrog.
Ça a le goût, c'est pas vraiment comestible, mais ça a le goût.
Parce que tu coupes le figuier et il a l'odeur de la figue. Hein.
Ça. Il y en a qui ont essayé, ils sont cassés les dents.
Toi? J'ai un figuier dans mon jardin.
Ouais. Le bois du figuier, il a le goût de la figue.
Quand tu coupes une branche du figuier, tu sens, ça sent la figue.
Ah, ça sent. Ça sent, mais c'est peut-être pas le goût.
D'accord.
Attention, réach et ta'am, c'est pas la même chose.
Je vous invite, il y aura de l'étrog.
Bouchamaison.
Du tronc d'étrog à manger.
Ah, c'est des figuiers, t'as dit. Ouais.
Je vais apporter une branche de l'étrog.
Alors.
Maintenant, quand on parle de l'étrog, évidemment, on fait référence à Sukkot.
Bien sûr.
Sukkot, qui est les 70 parim qui vont en diminuant. C'est pour ça que Beit Shammai veut que Hanouka, qui est la continuité de Sukkot, le prolongement de Sukkot,
il veut diminuer les lumières.
Veut diminuer les lumières.
C'est comme la
force des nations qui vont et c'est en fait le. Ça veut dire quoi? Ça va en diminuant pour ces lumières pour les nations. C'est qu'au fur et à mesure, on leur enlève les Nitzutzot, qui sont des Nitzutzot, qui parmi les peuples sont des Nitzutzot de Kedusha, qu'on peut réintégrer dans la Kedusha.
Or, c'est les conversions, ça?
Les conversions.
Ah oui.
Et les conversions, elles sont clés par rapport à Torah Sheba Al Peh. On sait que Hanouka, c'est la fête de la Torah Sheba Al Peh, la fête de la Torah orale. Or, la Torah orale...
Pourquoi?
Ah, pourquoi Torah orale? Parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est la seule fête, vous n'avez aucun livre du Tanakh qui fait référence. Mieux encore, même dans la Mishnah, vous n'avez pas. Il faut aller dans la Gemara pour...
Il y a trois livres.
Quoi, dans la Gemara?
Il n'y a pas grand-chose.
Non, il y a trois pages. Sur Hanouka, il y a trois pages. Kaf, Kaf Alef, Kaf Abed, jusqu'à Kaf Gimel. Ah oui, non, il y a quand même un peu de matière. Mais il y a pas, au niveau Mishnah, il y a quelques petites choses sur... Le chamelier qui a chargé son chameau de coton et si qui va prendre feu, etc. Enfin bon, c'est la seule chose dans Baba Kama. Sinon, il y a rien dans la Mishnah. Donc c'est la fête de la Torah orale. C'est pour ça d'ailleurs que c'est Lamed Vav, donc 36 lumières. Lamed étudie 6, les 6 ordres de la Mishnah. Lamed Vav, c'est 36 Masertot. Traité du Talmud de Babylone. Pour plus de détails, vous écouterez le shiur qu'on avait fait avant.
Oui, tu nous avais dit que c'était dû aussi à Rabbi Yehuda Hanassi qui ne voulait pas mettre en avant Hanouka dans...
Alors, Rabbi Yehuda Hanassi qui avait... Alors, parce qu'ils avaient gardé la royauté et Maintenant, il y a cet aspect-là. Et maintenant, la Torah Sheba Al Peh, les maillons principaux de Torah Sheba Al Peh, c'est Rabbi Akiva, Ben Guérim, c'est Rabbi Meir, fils de Néron, petit-fils de Néron. C'est donc des personnages qui, pour arriver au temps messianique, on va récupérer ces âmes, ces Netzutsot parmi les nations. Et j'ai un truc phénoménal. C'est que...
C'est la Kélos, hein, d'ailleurs.
C'est la Kélos. Je me permets de vous dire. Vous savez que le premier nom de la Torah Sheba Al Peh, la Torah orale, ça passe de l'époque... il y a toujours eu la Torah depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais à cette époque-là, on la marque pas parce que les maîtres de la Torah orale sont les maîtres aussi de la Torah écrite, c'est-à-dire sont des prophètes en général. Donc Moshe, c'est un prophète, Yoshua, c'est un prophète. Et Moshe kibel Torah Misinai, Umsara l'Ishua, Ishua l'Eskenim, Eskenim invi'im, Unvi'im, Eskwan et Anchek l'Estetak de là. Donc les prophètes, fin de la prophétie, on rentre Anchek l'Estetak de là. Avec Anchek l'Estetak de là, on bascule dans le monde de la Torah Sheba Al Peh. Quel est le premier nom de ce monde-là? Quel est le premier nom qui arrive, qui n'est pas un prophète?
On l'a dit, Shimon HaTzedik.
Shimon HaTzedik. Oui. Ça, c'est le premier nom. Donc, oui. Ça, c'est Shimon. Et quel est le deuxième nom? Je suis Michel Pirkavot.
Rabbi Yehuda Hanassi.
Non, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est 5 siècles plus tard.
Et alors
c'est... Non, non, le nom qui suit dans le Michel Pirkavot.
Ah, tu veux dire... ça, c'est une bonne question. Après Rabbi Shimon HaTzedik.
Ouais. Ouais, après Shimon HaTzedik, c'est qui a... Prenez là, donc la deuxième Mishnah de Pirkei Avot.
C'est pas Ezra.
Non, Ezra c'est avant. C'est avant. Ezra il peut être prophète. Mordechai c'est avant.
Attends, oui c'est avant, c'est bien avant.
Allez.
Après Shimon HaTzedik.
Donnez.
Et bien Matatia.
Matatia c'est bien après. Non, c'est pas ici.
Sadoc.
Alors voilà, Maxime est nos pères. Maxime, c'est nos pères. Alors, Moshe Kibel dans le Sinaï, Shimon HaTzedik Kibel, hein? Antignos Ishsocho. C'est lui le deuxième. Kibel, Mishimon HaTzedik. Il a reçu le Shimon HaTzedik, le deuxième maillon.
C'est un guerre.
C'est Antignos. Alors, est-ce que c'est un guerre? Avec un nom comme ça. Mais c'est qui d'où ça vient Antignos?
Antiganous.
Ah, pas mal. Antignos. Qui on trouve qui s'appelle Antignos?
Antignos.
Antignos, évidemment, c'est Antigone, chez les Grecs. Et bien, Antigone, c'était un général d'Alexandre le Grand.
Oui.
Et...
C'est pas étonnant.
C'est pas étonnant.
Parce qu'il était pro-Shimon, Alexandre.
Oui, Alexandre le Grand. Enfin, au début, pas vraiment. Et puis après... oui, donc Antignos, Antigone... Et donc, les choses sont allées très vite parce que Antignos, Antigone, c'est un des généraux d'Alexandre le Grand. Et c'est qui ce général? C'est qu'à la mort d'Alexandre le Grand, son empire a été partagé entre ses généraux. Parce que son fils était trop jeune. Et parmi les généraux qui sont partagés, il y a un Antigone le Borgne.
Qui a eu quelle part?
Qui a eu la part ici? Qui a eu la part, la Phygie? Qu'est-ce qu'il a eu là?
Le Japon, je crois.
Non.
Pas les Fidji, en fait.
Il a eu...
Carlos, on l'a surnommé Carlos. Il a eu le Japon.
Attends. Ah, je ne l'ai pas noté ici. Je ne l'ai pas pris ici. Attendez.
Carlos Antigone.
Non, je ne l'ai pas pris ici.
Il a eu la Perse, non?
Non, il a eu le Nord, il a eu la Syrie. Ouais, la Syrie. C'est-à-dire la Syrie, le Liban, tout ça. C'était Antigone le Borgne. Et Séleucos. Séleucos premier. Séleucos. Séleucos. Le fondateur de la dynastie des Séleucides. Séleucos. Séleucos premier. Lui était le chef de la cavalerie d'Alexandre le Grand.
Et on lui avait rien donné.
Et lui, on lui a donné. Il était satrape. Il a attrapé la Babylonie. Mais il n'avait pas de truc. Contre qui il s'est battu? Contre Antigone le Borgne. Et il a repris les territoires à Antigone le Borgne. Donc ça, c'est l'ancêtre des Séleucides dont les descendants s'appellent Séleucos, 1er, 2, 3, 4, et Antiochus.
C'est lucide.
Surtout qu'il avait, surtout que lui, il avait des raisons de pouvoir construire, si je veux, cet empire là-dessus. C'est le cas, c'est qui le permettait.
Donc c'est phénoménal parce que ça se passe par la Torah Shebaalpé. On voit dès le deuxième maillon, Antignos Issocho.
Mais attends, quand tu dis maillon, en général, quand on dit maillon, on dit une chaîne
oui.
qui fait un maillon, un oui. autre maillon, un maillon. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autres chaînes qui se sont rattachées à Shimon HaTzadik.
Non, c'est-à-dire que c'est le maillon fort. Bon, il y a eu d'autres élèves, mais le plus... Mais,
et c'est lui qui ensuite a transmis à qui alors ?
Et Antignos Issocho, tu vois la Mishnah d'après, regarde. Yossi Ben Yaezer, Ishat Seredar, Yochel Ranan, qui Beloumiem. Ils ont reçu de qui ? De Antignos Issocho et de Shimon HaTzadik. Donc c'est Yossi Ben Yaezer et Yossi Ben Yochanan. Mais là où ça devient complètement ahurissant, c'est que c'est Antignos Issocho qui va avoir deux élèves qui vont mal tourner. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Antignos Issocho ? Il avait dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître pour recevoir un salaire, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître pour ne pas recevoir un salaire. Il ne refuse pas le principe de un salaire, mais il dit, il ne faut pas instrumentaliser la Torah, je ne fais pas les mitzvot pour recevoir une part. Je fais les mitzvot d'une façon désintéressée. Parmi ses élèves, il y a un qui s'appelle Sadok, pas l'humoriste, Sadok, et l'autre qui s'appelle Baitos, qui lui disent, on travaille, on n'a pas de salaire ? Alors là, ils sont partis. Et ils ont refusé toute la Torah orale. De cette Sadok et de ce Baitos, de cette Sadok et ce Baitos sont descendus les Tzedukim et les Baitosim.
Les Karaïtes,
Ah, Karaïtes, c'est beaucoup plus tard. Karaïtes, ça arrive un peu à la même histoire avec 1000 ans plus tard. Les Karaïtes n'acceptent que la Torah écrite, pas la Torah orale, mais les Karaïtes sont de l'époque de l'an 1000 à peu près. Alors que là, on est en moins 200 à peu près. Et donc, alors c'est phénoménal parce que Tzadok était un Kohen. Kohen Gadol.
Oui.
Et donc, il va entraîner derrière lui de nombreux Kohanim qui vont être hellénisants. Les plus hellénisants parmi le Kohen Israël, c'était les Kohanim. C'était la Oitz City. Ils étaient les plus partants dans l'hellénisme. Et c'est pour ça qu'il va avoir un tikkun parmi les Kohanim, que ça va être Matthiaou Ben Yochanan Kohen Gadol, qui va être un tikkun de folie. Pourquoi ? Parce qu'on se pose la question, c'est qui Yochanan ? Certains disent que Yochanan, en fait, c'était le Kohen Gadol, qui pendant 80 ans était Kohen Gadol, et au bout de 80 ans, il a mal tourné. Et donc son fils Matthiaou, il va tikkuniser son père, qui a mal tourné, et tous les Kohanim qui ont mal tourné en faisant...
Sadok, il est avant ?
Oui. Alors, Sadok, il serait avant, alors...
Attends, les Sikers, ils viennent d'où, les Sikers ? C'est pas Sadok aussi ?
Non, Sikers, c'est à l'époque du Khurban Bayit.
Oui, c'est ça.
Non, là, on est bien avant, on est deux siècles avant.
C'est ça, mais il y avait un Sadok aussi.
Oui, les Sadokim, ils sont restés après.
C'est ça, ils sont restés après.
Mais là, ils ont commencé à cette époque.
Ils ont commencé à cette époque, mais les Sikers, ils viennent de Sadok, justement.
Oui, les Sadokim, oui. Alors, je sais pas si c'est... Parce que les Sikers, c'est le glaive.
Oui.
Mais parmi eux, il y avait les sacs du cerf. Les sacs du cerf, on les retrouve à l'époque du Khurban Bayit. On les retrouve jusqu'à assez tard, bien sûr. Mais l'origine est là.
Les Sikers, c'était des Juifs ?
Je crois.
Bien sûr. Bien sûr. C'est pas égyptien.
C'est des variantes, quoi.
Mais tu sais, il me vient comme ça à l'esprit.
Oui.
Un jour, ça serait bien que tu nous fasses un petit cours.
Sure.
Justement, sur tous les mouvements, si tu veux, tu vois,
les grandes lignes, elles sont là.
Oui, on les a.
Il y a eu les Perushim, donc les pharisiens, c'est nous. C'est Chazal, c'est les Chachamim. Donc c'est Prouchim parce qu'il... Quoi ?
Les Parisiens.
Les Parisiens, donc qui sont... Attends, je vais juste
mettre un petit peu de...
Le niveau de Sadok, c'était les poires.
Hein ?
Les enfants de Sadok qui aimaient les Grecs, c'était les poires. Les poires
belées. Ils sont montés, ils vont se
séparer. Oh, attends, Adonai. Elohim, Omele, Avalam, Shehakon, Nihem, Dvorop.
Amen.
Et nous... dynastie de Cohen qui ont fait un nommé sur Israël. Tu ne reconnais pas la Torah orale.
Ah, c'est les Samaritains, ça.
Ah, les Samaritains, oui.
C'est autre chose.
C'est encore autre chose.
Ah, c'est encore une autre histoire. Non, enfin, ils ont parmi eux des Cohen. Oui.
Ils savent deux Cohen, d'ailleurs.
Oui, oui, mais eux, ils ne sont même pas juifs.
Non, mais complètement, je
sais. Eux, ils sont, en fait, ils ont été déportés de Caucasie, enfin, d'Extrême-Orient. Et ils ont été amenés en Israël. Et ils se sont convertis, ce qu'on appelle Guéret Arayot. Et ils se sont convertis parce qu'il y avait des lions tout autour. Ils ont eu peur. Alors, ils ont dit. Donc, ils se sont créés une religion qui acceptait un peu la Torah, mais qui se sont fait leur propre Torah. D'ailleurs, ils ont un Sefer Torah, eux. Qui, et ce n'est pas des bons Samaritains. Et on trouve tout chez les Samaritains. Donc,
on trouve de tout là-bas.
Mais c'est pas faire Torah. C'est pas faire Torah.
C'est pas Sefer Torah.
C'est pas faire Torah. Alors, bon, ok, alors continue, parce que là j'étais bloqué sur un aspect historique.
Non, mais en deux, on va dire, en gros, il y a trois.
Les Parisiens.
Il y a les Parisiens, les Lyonnais, non. Les Sadducéens, Tzedoukim, dont on vient de parler, et les Baïtossim. Alors, c'est un truc qui est un peu délicat, c'est que Baïtossim, on en parle chez Hazal, avec Mara, Michel, etc. Mais chez les historiens, on ne les trouve pas. On ne sait pas qui c'est ces Baïtossim. Par contre, dans Chazal, on parle des Beit Osim, mais on ne parle pas des Esnéens. Alors, ce n'est pas impossible que Beit Osim, c'est Beit Essien.
Oh.
Et donc, ce serait. Alors, c'est quoi Essien? Etsa, ceux qui donnent des conseils. Ou Assia, ceux qui avaient une vie saine. Parce qu'ils vivaient comme Asset, etc. Donc, il y a des trucs. Et ça, c'est les grands trucs. Après, il y a plein de petites sectes. Avec des sectes qui, après, il y en a certains qui ont un truc. Par exemple, les chrétiens, ils ont bien marché après. C'était une secte juive à la base. Si JC venait aujourd'hui, il irait dans une synagogue, hein, jamais dans une église. C'est bon de le dire, de le répéter, et de le répéter bien fort, parce que pour lui, il se reconnaîtrait beaucoup plus dans une synagogue que dans une église. C'est bon.
Les chassidim, c'est là de quand?
Alors, vas-y. Les chassidim.
Trois siècles, non?
Ça n'a pas le même sens. Attention. Chassidim, il y en a à cette époque, ça s'appelle les chassidim, c'est ceux qui aiment Dieu. Donc c'est David dit qui est chassidani. Donc, alors ça n'a pas du tout le même sens. Après, il va y avoir d'autres sens. Après, vous avez le piétisme rhénan au Moyen-Âge. Donc c'est chassidé ashkenaz. C'est aussi. Et après, vous avez le chassidisme tel que nous on l'appelle à l'époque du Baal Shem Tov au XVIIe siècle. C'est encore une autre. Et c'est pas la même chose. Quand on parle de chassidé ashkenaz ou les chassidim des élèves du Baal Shem Tov, c'est pas la même. Bon, il y a des ramifications, mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même sens qu'on trouve dans la Torah avec le mot chassid. Alors maintenant.
Alors tu nous disais ça d'abord pour nous dire que c'était des guerres, en fait, que tout venait de la guerre d'ailleurs. Mais que c'est le Sios, là, dont tu nous parlais, qui était.
Seleucos.
Seleucos.
Qui était l'ancêtre des Séleucides.
Non,
alors pourquoi je vous ai parlé ça? C'est qu'il était en guerre avec un Antigone, qui est le Borgne. Et que pour nous, Antigone, c'est pas le même, hein, évidemment, mais il portait le même nom que cet ancêtre de c'est quand même. Alors au niveau historique, c'est un peu difficile parce qu'on a du mal un peu comment est situé. Ça a l'air d'aller vite. Bon, on va laisser un peu flou, mais il y a ces ramifications. Et en fait, je vous ai parlé de ces ramifications parce que la fête de Hanouka, c'est une fête où on dit Hachetirle Regel Minashuk. Régal Minachouk, que se termine le passage dans le marché.
La fin des marcheurs.
La fin des marcheurs. Alors, c'est des marcheurs. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Des gilets, là? Alors, c'est quoi?
Il court, maintenant, il court.
Et on dit, c'est quoi, Régal Minachouk? Les marchands. C'est qui les marcheurs qui marchent, qui sont les marchands, qui sont le repère pour savoir jusqu'à quelle heure je peux allumer ma Hanoukia? C'est les Tarmodaï.
On ne l'aurait pas inventé, ça.
Et qui sont ces Tarmodaï? Alors, ces Tarmodaï, c'est Shemouma, c'est le nom d'une peuplade. Donc, ce n'est pas des Juifs à la base. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient du bois pour se chauffer. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était l'arabe du coin, on pourrait dire. C'est-à-dire, eux, c'était le commerce qui était ouvert le plus tard que les autres, parce que normalement, dès que la nuit tombait, tout le monde rentrait chez soi, et il n'y avait, pas d'éclairage artificiel dehors. Donc, il était difficile dès que la nuit tombait, il n'y a plus personne à la rue. Les seuls qui restaient, c'était les Tarmodaïs qui vendaient leur bois. Donc ça veut dire qu'il y a un Pirtoumanès avec les Goïms ? Non. Parce que tant qu'il y a des Tarmodaïs dans la rue, celui qui arrive chez lui, il dit « Ah, il fait froid. Bon, chérie, on met un petit peu de bois là pour poser la truc. » Mais il n'y en a plus. Thermodaïe. Donc on sort de la maison pour chercher la thermo. Ils allaient chercher le Thermodaïe pour lui acheter du bois. Et donc quand ils sortaient pour aller chercher le Thermodaïe pour aller chercher du bois, ils pouvaient avoir le Pirsoumanès de voir les Hanoukiotes qui sont allumés dehors. Mais on voit qu'ici il y a une incidence par rapport au Gouyim, qui vont être une référence pour pour le temps. C'est-à-dire, notre temps, on le prend en fonction des Tarmodaïs. Alors, ça, c'est phénoménal, parce que vous savez qu'à partir depuis hier soir, on a commencé à demander la pluie. Hein? Et on se base sur quoi ? Sur le 4 décembre. Ceci, c'est pas le calendrier juif, ça. C'est un tas de goy. Et c'est phénoménal, cet aspect-là.
4 ou 5, non ?
Oui, 4 ou 5, suivant les années.
Toujours
Goy.
Non,
c'est pas assez. Et alors, pourquoi 4 ou 5 ? Ça dépend si février est 28 jours ou 29 jours. D'accord. Quand février fait 29 jours, alors c'est le 5. D'accord. Et quand c'est 28 jours, alors c'est le 4. Parce qu'en fait, on va de Tekoufa en Tekoufa. C'est-à-dire, c'est 60 jours après la Tekoufa. Or, il y a un certain nombre de jours, d'heures et de Chalakim. J'ai pas précisé avec moi, mais c'est en fonction de ça.
Bah, justement, parce que la Tekoufa, elle est fixée d'après le soleil. Donc,
ça,
donc on est
ça.
Sur le calendrier grégorien.
Et là où il se passe des choses, c'est que il y a quelque chose qui est assez. Je fais un petit saut par rapport au calendrier Goy, etc. Et tout. Une remarque. C'est que, comment s'appelle le roi qui a voulu donc unifier tout son royaume et helléniser par force tout ?
Ptolémée ?
Non, Ptolémée, il voulait traduire la Torah en grec. Ah, oui. Non. Donc lui, c'est Antiochus Épiphane.
Le fameux de Hanouka.
Épiphane, c'est ça. Et ça veut dire quoi, Épiphane ?
Eh bien, l'épiphanie.
Ah, c'est quoi l'épiphanie ?
Eh bien, l'épiphanie, justement.
Épiphanie,
c'est le moment
quoi ?
Où le jour commence à dépasser, enfin, où on retourne...
Épiphanie, alors on ne va pas faire un cours de machin, c'est quand Gaspard, Melchior et... Bon, ils sont venus, les rois mages, ils sont venus, ils ont vu le petit machin qui s'est révélé, c'est une notion de révélation et de... Il se révèle quelque chose.
Le bout de la face.
Donc c'est une révélation.
Et donc, un épiphénomène. Hein.
Et ce qui est remarquable, c'est que aujourd'hui en France, c'est le dimanche qui suit, à l'origine, c'est le 6 janvier. Et le 6 janvier, c'est le jour de Léon orthodoxe.
Ah oui, c'est comme ça qu'il le compte.
Les chassidim de Hongrie et de Galicie considèrent que le jour de Léon, c'est celui-là, c'est pas le 25. Il y a le petit et le grand. Le grand, c'est celui-là.
Pour l'étude,
etc., pour la pose incidence. Cette année, le 6 janvier, c'est quoi ?
Le 6 janvier ? Ah, ne m'en parle pas.
Le premier, c'est un mardi, c'est Shabbat, c'est un dimanche.
Ce sera donc...
Le 6 janvier, je vais te dire.
C'est
le 6 janvier.
En date juive,
oui.
Ah oui, ça, je vais te dire. Ça sera normalement le 24 Tevet.
Non, plus que ça. On sera veille de Rosh Chodesh Shvat. 29 Tevet.
T'es sûr ?
Ah, j'ai vu.
Il me semble...
Le
combien ? Le 29 ?
29 Tevet.
Ah, c'est le 4. Oui, c'est
et donc, on sera Yom Kippour Katan. Donc, le petit Kippour de... Yom Kippour Katan du mois de Shvat.
D'accord.
Le mois de Shvat, c'est le mois qui est au début de la création du monde. Pourquoi ? Parce que la création, c'est Nissan, et 40 jours avant, vers le, donc le 20 Shvat, tout Bishvat.
Oui,
le 15 Shvat, c'est ça le sens du 15 Shvat, on est 40 jours, et donc le mois de Shvat, c'est le mois de la formation du monde. Et donc,
on a l'apogée du mois de Shvat.
Donc, on a l'apogée.
Pourquoi tu prends 30 jours avant ?
Je prends 30 jours.
40 jours.
Parce que c'est
40 jours.
40 jours.
40 jours avant la naissance du monde, c'est ça ?
40 jours. Et maintenant, donc, on est à la veille du début du mois de Shvat, qui lui-même, donc, est le début du monde. Et ce jour-là, c'est quoi Yom Kippour Katan ? C'est le jour où il n'y a plus de lune. Mm-hmm. Et ce jour-là, il n'y aura pas de soleil. Éclipse du soleil, ce jour-là.
Là qui arrive ?
Ouais, c'est ce jour-là, le 6 janvier, cette année. Donc, je vous laisse apprécier. Alors, on le verra sur l'océan Pacifique, sur l'Asie, mais pas en Europe. Mais il y a une éclipse du soleil. Quand on parle l'icouille à l'éclipse du soleil, eh bien, c'est mauvais pour les nations. Et c'est le jour où c'est la lune, on la voit pas. Donc,
c'est mauvais pour tout le monde, alors.
Non,
nous c'est bon quand on se voit.
Nous ça va. Non mais ça va truc parce que là on rebondit sur le Rosh Chodesh. Et c'est l'heure de Mincha.
C'est quoi dimanche?
Quel jour de la semaine, je sais pas.